Hélène Créanbulle. La police britannique a sous-estimé la violence et la désinformation qui ont conduit aux émeutes d'extrême droite de l'été 2024. C'est la conclusion d'un rapport publié cette nuit. Il pointe des lacunes dans le renseignement britannique. Pour rappel, le 29 juillet 2024, le meurtre de trois fillettes à Southport lors d'un cours de danse avait déclenché des émeutes anti-immigration dans plusieurs villes. Des mosquées et des hôtels pour demandeurs d'asile avaient été alors pris pour cible. Selon ce rapport, une série d'incidents violents entre 2023 et 2024 aurait dû alarmer davantage la police et l'inciter à mieux anticiper ces troubles. Des centaines de soldats nord-coréens ont été tués ou blessés dans la région russe de Koursk lors de combats contre l'armée ukrainienne. L'information a été donnée hier par un haut responsable militaire américain. De son côté, le commandant en chef ukrainien a confirmé ses offensives. Selon lui, l'armée nord-coréenne est engagée depuis 3 jours et subit de lourdes pertes. Le militant écologiste et grand défenseur des baleines, Paul Watson, est libre. Le Danemark a refusé la demande d'extradition du Japon. Il avait été arrêté cet été pour des actes remontant à 14 ans. Les autorités japonaises l'accusent d'être responsable de dommages à bord d'un navire baleinier japonais en 2010. Paul Watson a donc pu quitter la prison de Nuuk au Groenland après une détention provisoire de près de 5 mois. Les impôts des Vaudois baisseront de 7% d'ici 2027, soit davantage que prévu. Le Conseil d'État proposait initialement une réduction de 5%, mais le Grand Conseil a suivi une proposition plus généreuse de l'UDC. Avec cette mesure, le Parlement espère contrer une initiative des milieux économiques qui réclame une baisse de 12%. Les Vaudois voteront sur ce texte l'an prochain. Denis Maillefert va succéder à Robert Sandeau à la tête du Théâtre du Jura. Il sera directeur artistique dès la mi-janvier. Le metteur en scène vaudois a récemment co-dirigé 2 théâtres, dont la Comédie de Genève. Des bancs de brouillard sont attendus ce matin en plaine avec un sommet vers 600 mètres. Le temps sera en partie ensoleillé malgré quelques passages nuageux. En plaine, il fera minimum moins 1 degré, maximum 6 degrés. Demain, jeudi, temps changeant avec des précipitations à partir de l'ouest en cours de matinée. Et la limite pluie-neige à 1800 mètres s'abaissera vers 600 mètres en soirée.
L'actualité en continu sur l'application RTS Info.
Salut, moi c'est Uma et je suis journaliste scientifique. L'autre jour, au Muséum d'histoire naturelle de Genève, j'ai rencontré un œuf de dinosaure qui parle. C'est extraordinaire, non ?
Eh oui, parce que je suis extraordinaire. Et d'ailleurs, j'ai convaincu Uma de faire un podcast sur moi. Enfin, sur les dinosaures.
Quoi de neuf, Dino ? C'est un podcast en 6 épisodes à retrouver sur l'application Play RTS et sur toutes les plateformes d'écoute en ligne.
Du son, de la radio, la nuit sur RTS Première.
Vertigo, Anne Lorganac.
Avec Jérôme Nussbaum et Gilles Ozamanan, Régie, bonjour à vous qui écoutez ceci. Sur la pop-rock enflammée de Oshé Yara, multi-instrumentiste nigério-autrichienne surdouée de 21 ans, des mots claque, blanc sur fond rouge, artistique et féministe, créative et contestataire. Et puis des images s'enchaînent de femmes, artistes qui chantent, qui jouent, qui clament de la poésie, de la musique, du chant. C'est le générique officiel de la 20e édition du Festival des Créatives, festival qui s'ouvre aujourd'hui. Et nous y sommes en direct ensemble. Thierry Sartoretti, bonjour.
Bonjour Anne-Laure, bonjour à toutes et tous.
Nous sommes tout près des loges, hein, à la salle du Lignon, à Vernier, où on entend parfois... Voilà, voilà, des soundchecks en train de se préparer pour cette première soirée d'ouverture. On va vous offrir un aperçu de ce rendez-vous en compagnie d'abord de ses deux co-directrices et programmatrices, Hermela Ailey et Nevena Pulic. Bonjour à vous.
Bonjour Anna.
Vous nous raconterez un peu les coulisses de ce festival, sa préparation, sa philosophie et puis son évolution, hein, puisque c'est 20 ans cette année. Et puis trois des nombreux artistes programmés sont avec nous aussi. Une poétesse et artiste franco-marocaine, Rim Battal. Bonjour Rim.
Bonjour Anne-Laure.
Artiste en résidence de cette 20e édition, vous nous parlerez de votre travail artistique qui passe par la poésie, la photo, la performance scénique pour aborder les thèmes de la transmission et de la place des femmes dans la société. Hortense Bellot est là également. Bonjour Hortense.
Bonjour.
Actrice, autrice, historienne de l'art française, vous proposez des visites guidées d'un genre bien particulier. Vous allez en faire au musée d'art et d'histoire, après en avoir fait au musée d'Orsay à Paris, sous forme d'escape game. Alors évidemment, on aura besoin de détails pour savoir comment ça se passe, tout ça exactement, pour regarder, je crois, autrement toutes les merveilles qui se trouvent dans nos musées. Marara Kelly, vous êtes là également. Bonjour à vous.
Bonjour.
Artiste, musicienne, brésilienne, DJ. Vous avez une conception bien particulière du mix et de ses effets sociaux et politiques. On va évidemment faire plus ample connaissance avec vous, avec votre travail. Et puis ensemble, on va s'interroger sur l'évolution des formes d'expression artistique et de l'engagement féministe et minorité de genre, leurs caractéristiques en 2024, à qui ça s'adresse. Et puis, quid des ambitions de diversité et d'égalité dans les structures culturelles. Thierry Sartoretti, vous avez mené l'enquête et vous nous en rendrez compte. Voilà le programme. Entrons en matière, une matière festive et féministe, parce que c'est cela aussi, la culture. Soyez les bienvenus.
17h, 18h, sur la première, c'est Vertigo.
Et on est donc ici à Vernier avec vous, Hermela Ailey et Nevena Pulic. Vous êtes depuis 2 ans les programmatrices, les deux co-directrices de ce festival Les Créatifs. Pendant 12 jours, 26 lieux sont investis à Genève et dans les environs, avec pléthore d'événements, donc pour mettre en lumière la production artistique et intellectuelle du féminisme et des minorités de genre. Le communiqué parle d'un féminisme comme, je cite, voie d'ouverture et d'inclusivité, mais aussi d'héritage et de guérison. Ça veut dire quoi exactement et qu'est-ce que ça implique en termes de programmation, Hermela Ailey?
Alors, merci pour cette question. 14 jours de festivité, je crois, cette année.
Oui.
Ouais, un truc comme
c'est
ça.
C'est vrai, hein, c'est long.
Ouais. Ouais.
Écoutez, jusqu'au 25.
Exact. L'héritage, il vient du fait que vous l'avez dit, c'est la 20e édition. Nous, ça fait 2 ans qu'on est là, c'est notre 3e édition, et qu'en fait, on n'aurait pas été là et on n'aurait pas pu porter ce festival là où il est aujourd'hui sans nos prédécesseurs. Et c'est là où on voulait, en fait, disons, rendre hommage et aussi rappeler cet héritage, ces luttes, ces mouvements et tout ça. Et puis, vous avez aussi nommé la guérison. Bah, typique, la guérison, c'est une thématique de table ronde, et ça fait aussi écho à Flesh Love qu'on va recevoir le 25 novembre.
Mmh, artiste et, musicienne, ouais.
Exactement, qui a écrit un album qu'elle définit comme une vocalothérapie. Et donc on s'est aussi inspiré de son travail musical pour en faire une thématique de table ronde. Mmh. Voilà, en gros. Donc c'est un peu comme ça qu'on construit notre programmation.
Nevena Pulic, qu'est-ce que vous diriez être les spécificités de cette 20e édition?
Je sais pas s'il y a vraiment une spécificité dans le sens où effectivement on reste un festival artistique et féministe, pluridisciplinaire. On continue à aller dans de nombreux lieux à Genève, dans tout le canton, on s'associe à de nombreux partenaires. Je pense que la spécificité, c'est peut-être qu'effectivement on réinvite beaucoup de personnes qui sont passées par le festival dans le passé. Donc effectivement, ben, ce soir en fait c'est un bon exemple puisque Virginie Despentes, Béatrice Dalle, Cazet et Zéro se reproduisent au festival après être déjà passées en 2019.
Mm-hmm. Avec une performance lecture musicale intitulée Trouble.
Exactement. Et en 2019, c'était Viril. Pareil pour Flesh Love qu'on a mentionné tout à l'heure, ou Billy Bird. Mm-hmm. Qui sont deux artistes suisses romandes qu'on suit vraiment depuis le tout début et qui participent aussi au rayonnement du festival.
Mm-hmm. Donc réinviter, ça ne veut pas dire répéter, j'imagine. Qu'est-ce que vous voyez comme renouvellement, comme évolution?
Bah effectivement, bah, typiquement par rapport à toutes ces personnes que j'ai citées, Billy Bird, c'est un projet totalement spécifique puisque elle s'associe à 30 personnes queer et alliées, donc c'est un gros projet qui va se produire au Créative. C'est pas le format habituel.
Oui, c'est une chorale, hein, les flamboyantes XXL. Exactement. On va entendre un extrait tout à l'heure.
Donc ça va être un super projet. Pareil pour Flesh Love, en fait, qui revient justement avec cette thématique de la guérison. Donc on n'est pas dans le, on refait pas les mêmes choses. On avance et puis je pense que le contexte mondial nous force à le faire aussi.
Mmh. Comment est-ce que vous diriez, Hermela Hellé, que c'est les formes d'expression artistique féministe ont évolué au fil de ces alors 20 années. Vous êtes arrivée en 2022, mais en tant que genevoise, vous avez assisté, vous avez de près hein, aussi à ces créatives. Comment est-ce que vous diriez qu'elles ont évolué? Qu'est-ce qui a changé au fil de ces années-là?
Vous parlez du festival en lui-même ou plutôt des expressions?
Oui, et puis plus globalement, des formes d'expression artistique sur le champ des féminismes et des luttes pour les minorités de genre.
En soi, je dirais qu'elles ont toujours existé. C'est plus que peut-être on leur donne plus la parole et puis qu'on leur donne aussi plus disons, elles ont plus leur place aussi parce qu'elles se sont battues. Mais en soi, nous, on montre que ce qui existe déjà. On est en train de juste subliminer et visibiliser ce qui existe déjà. Donc c'est peut-être plus qu'on prête attention à ça.
Mmh. J'ai envie de dire. Mais vous avez l'impression que c'est plus facile de les trouver, ces voix-là, aujourd'hui, qu'il y a même 2 ou 3 ans?
Oui, mais en fait, même il y a 19 années, quand Cyril Schneider a commencé son festival dans la commune d'Onel, les a aussi trouvés. Donc c'est plutôt une volonté vraiment d'aller chercher et de donner la parole et la tribune. Mais ces personnes ont toujours existé. Enfin, on a toujours existé.
Thierry Sartoretti.
Oui, je me demandais si en 20 ans, autour de vous, les choses avaient changé. Quand les créatives ont été créées, le constat était simple, il y avait trop peu d'artistes femmes sur les scènes romandes, dans des festivals, dans des manifestations. 20 ans plus tard, vous avez fait Tache d'huile, où c'est toujours le clown n'a pas encore traversé la planche. Il y a eu le mauvais exemple du Paléo, je crois, cet été, où il y avait quasiment que des hommes dans la programmation. Est-ce que les créatives font à semer, à ouvrir les autres festivals?
On espère, mais après, effectivement, avec les moyens qu'on a aussi, donc le festival a quand même commencé sur quand c'était dans la commune d'Onet, sur un week-end, c'était une parenthèse, on l'appelait, dans la programmation culturelle de la commune d'Onet. Aujourd'hui, on est sur 2 semaines, donc ça découle aussi des moyens politiques, des moyens financiers qui nous ont été donnés, et d'une volonté politique aussi de donner ces moyens à un festival comme le nôtre. C'est sûr qu'on essaye de faire tache d'huile et d'essaimer. Et je pense qu'on y arrive parce qu'effectivement, il y a beaucoup de travail qui est fait, il y a beaucoup plus de femmes et de minorités de genre qui sont programmées. Maintenant, on se posera toujours la question d'effectivement, est-ce que c'est un prétexte? Est-ce que c'est pour avoir des tokens? On peut faire des statistiques, par exemple, dans les festivals en disant oui, on a 50% de femmes, puis en fait, c'est toutes des premières parties où elles sont juste derrière, accompagnantes d'hommes qui sont en fait les vraies têtes d'affiche. Donc, on essaye. Je pense qu'il y a effectivement des avancées qui sont faites, mais elles sont assez lentes.
Mmh. Il y a aussi plus de recherches qui sont menées dans ces domaines-là et qui permettent, par exemple, pour vous d'aborder cette question de la musique classique et des compositrices. Hein. Il y aura demain ce concert de l'OSR avec une mise à l'honneur des compositrices du XXe siècle. Un mot là-dessus, peut-être, ce concert qui s'appelle Classique et engagé. Hermena Bahaile.
Oui, avec plaisir. Je veux venir sur la construction de la programmation parce que, en fait, on est parti sur la volonté de vouloir faire une table ronde sur la place des femmes et des minorités de genre dans la musique classique, mm-hmm. qui n'est pas le terrain forcément des créatives. On est quand même plus dans les musiques actuelles et parce qu'on avait écouté un podcast et puis c'est parce que ça nous a du coup motivé. Et de fil en aiguille, on est rentré en contact avec l'OSR qui a aussi cette volonté qui avait en tout cas la volonté de faire un concert autour des compositrices. On s'est dit partons là-dessus. Donc ça part vraiment de nos volontés individuelles et puis aussi de pouvoir offrir ça à un public où voilà, le public classique n'est pas hors de la société non plus, et les femmes compositrices, chefs d'orchestre, musiciennes, solistes ou autres sont aussi traversées par les inégalités dans leur milieu mais aussi dans la société. Donc on s'est dit que voilà, ça va être sympa de le faire, et c'est pour ça que c'est classique et engagé.
C'est ça. Et donc ce sera sera demain à 19h30 au Victoria Hall et ce sera, je le précise, avec une captation de la RTS et une diffusion sur Espace 2 le 5 décembre et puis sur RTS1 après l'émission Ramdam le 18 décembre. Vous avez évoqué Billy Bird, cet artiste suisse qui donc débarque cette année avec une chorale, les Flamboyantes XXL, une trentaine de personnes queer et alliées pour interpréter ensemble le répertoire de l'artiste. Alors on a cherché un extrait en vrai hein, de cette chorale, mais il n'existe pas encore, donc ça sera vraiment une primeur de venir assister à ce concert-là au festival. En attendant, voici Billy Bird et La Nuit qu'elle interprétera probablement avec cette chorale-là.
Quand vient la nuit, je me perds et je suis, je me décale. Plus de mesure, je ne vois plus les murs dans ce dédale. Et partout, je me heurte à la foule. À la foule des urgences en moi qui se défoule. C'est la valse des ombres qui m'assaille. Des ombres qui m'assaillent. Et quand vient la nuit, je me perds et je suis, je me décale. Et quand vient la nuit, j'ai si peur qu'on m'oublie, tout est bancal. Et quand la nuit tombe, c'est la valse des ombres qui m'assaillent. Et quand vient la nuit, je me perds et je suis, je me décale.
La nuit, Billy Bird, Vertigo, en direct de la 20e édition des Créatives où Billy Bird se produira avec la grande chorale Flamboyante XXL. Ce sera le 20 novembre à la salle Grand Salève. Nous, en attendant, on est ici au Vernier, à la salle du Lignon, avec les deux co-directrices Hermela Haile, Nevena Pulic, avec la DJette brésilienne Marara Kelly, l'actrice, autrice et historienne de l'art Hortense Bellot. On va parler de vos propositions artistique ensemble, mais d'abord un petit peu de poésie. Écoutez.
Comme mes sœurs Jodalis et Assoué, je fais mes propres cascades. Je soulève mon pull, mon pull se soulève, mon corps scintille et se décharge dans le plus intime des éboulements. Ceci est mon corps qui ne résiste pas et qui résiste. Ceci est mon corps qui n'est pas un problème et qui en est un impossible à résoudre.
Rime Batal, qu'est-ce qu'on vient d'entendre? Dites-nous.
Alors il s'agit d'un texte qui est extrait de mon dernier recueil de poésie qui est intitulé XXE, paru en février dernier chez le Castor Astral.
Mmh. Et donc?
Et donc, alors c'est un livre qui, en fait, son point de départ, c'était l'idée de questionner la pornographie en ligne, et aussi ensuite essayer de tisser des liens entre la poésie, la pornographie du coup, et l'art classique et contemporain, certaines œuvres littéraires que je cite aussi dans le livre.
Mmh. Vous sévissez, Rima Thal, de la poésie, donc là. Vôtre, mais aussi celle d'autres autrices, hein, pour interroger cette question de la place des femmes dans la société. Pourquoi la poésie ? En quoi c'est une arme efficace pour cela ?
Alors à la base, j'avais pas pour but de questionner la place des femmes, mais comme j'en suis une, j'écris et je parle à partir d'un corps de femme, du coup, cette thématique-là traverse de manière naturelle et organique tout mon travail. Donc, on me demande souvent si mon travail est féministe. Oui, il l'est naturellement, et je constate à mesure des rencontres, des lecture publique et performance, etc., que ce que j'écris parle et fait du bien, comme Hermela tout à l'heure parlait d'héritage et de guérison. Aide énormément de personnes, femmes notamment, queer, alliées, à se réapproprier leurs désirs, leur corps et leur sexualité. Donc c'est tout bénef.
Vous l'avez dit, c'est une lecture performance. On avait donné une hier dans le cadre d'un partenariat avec l'Université de Genève, à l'occasion de la Semaine des droits humains. C'était une lecture performance avec une musicienne, Alexandra Bellon. J'ai l'impression, Hermela Aile, Nevena Pulic, qu'il y a beaucoup, de plus en plus, de lecture, performance avec musique. Comment est-ce que vous considérez cela ? Est-ce que ça, c'est vraiment un plus, c'est un moyen de toucher un public plus large qui ne viendrait pas forcément juste à une lecture poétique ?
Oui, probablement, mais peut-être Rim, ta meilleure retour d'expérience.
Alors, en fait, les performances avec musique ont toujours existé, enfin toujours, depuis de nombreuses années. À la base, en fait, la poésie écrite, publiée dans des livres, c'est quelque chose d'assez récent finalement. On a un énorme héritage de poésie orale qui s'appuie aussi sur la musique. Récemment,
on va parler d'un retour alors.
En fait, on a cette impression là parce que ces performances avec musique sont de plus en plus travaillées. Avant, quand on était invité à des festivals, souvent on était associé à un ou une musicienne. Aujourd'hui, les poètes et poétesses s'approprient un peu ce genre et essayent de travailler en amont avec des musiciennes qui composent parfois spécialement pour les textes. J'ai fait moi-même un spectacle à partir d'un de mes livres qui s'appelle Pomme Girl, où on a bénéficié d'une résidence de création avec des musiciens. On a travaillé spécifiquement pour ce livre-là. Après, oui, en fait, ça a toujours existé. C'est juste que là, ça bénéficie d'une meilleure diffusion et de plus de visibilité parce que on le voit de plus en plus grâce aux réseaux sociaux notamment. Je pense que.
Mais de fait, vous avez l'impression que ça touche un public qui n'est pas forcément la toute première cible grâce à cette dimension aussi musicale, spectacle.
Peut-être que ça fait moins peur. Peut-être que quand on dit poésie, comme la poésie pendant de nombreuses années a été considérée comme élitiste parce qu'elle était aussi de quelque part parce qu'elle était accaparée par une petite poignée de personnes de mâles blancs bourgeois qui restaient dans des cercles fermés et qui avaient je sais pas, c'était peut-être dans leur intérêt que la poésie reste opaque, mais aujourd'hui la scène se renouvelle parce que de plus en plus de personnes notamment de femmes, de personnes queer, de personnes racisées ont l'attention justement, en plus de une meilleure attention des directrices de festivals comme les créatives et arrivent à diffuser leur travail sur les réseaux sociaux sans passer par le filtre des maisons d'édition qui n'étaient pas forcément à l'écoute. Il y a aussi un renouvellement au niveau des maisons d'édition. Par exemple, comme en France, on a les éditions Blast ou les éditions Gorge Bleue qui publient de plus en plus de femmes, etc., et de textes engagés qui n'ont plus peur de se mouvoir mots, plus peur de dire que la poésie est politique. Donc oui, donc c'est tout ça en fait qui participe à l'élargissement du public aujourd'hui.
Thierry Sartoretti, vous avez une question.
Oui, Rim Batal, est-ce que si on change la musique sur un même texte, ça éclaire différemment son sens ? Est-ce que évidemment. Le sens peut changer selon
complètement.
Les mélodies ?
Bah, déjà, le sens peut changer d'une lectrice à une autre, d'un contexte à un autre. Personnellement, quand j'écris mes textes, pour moi, ils sont d'abord sensibles et politiques, mais souvent, ils ont été considérés comme érotique parce que pendant de nombreuses années j'ai performé avec un collectif qui s'appelle le Bordel de la Poésie, et dans ce cadre-là on est costumé et on fait les lectures en tête à tête, habillé avec corset, dentelle, etc. Et là, rien que ce changement de contexte donne une coloration totalement différente à un texte qui est à la base politique et qui devient érotique en fait dans ce contexte d'écoute particulier, dans ce dispositif-là. Donc oui, évidemment, la musique change le sens, change la réception.
Une question aux co-directrices de ce festival. Comment toucher un public qui ne soit pas déjà convaincu ? À quel point est-ce que cette question vous préoccupe quand vous préparez votre programmation ? Nevena Pulic.
Bah, effectivement, elle nous préoccupe beaucoup parce que le festival, c'est le programme que femmes et minorités de genre, il s'adresse à tout le monde. On essaye vraiment d'avoir tout public qui pourrait s'intéresser au festival. On voit qu'il y a des difficultés, effectivement, parce que les gens vont penser qu'en fait, il faut être féministe pour venir aux créatives. C'est pas le cas. Et je pense qu'en fait, notre programmation, par exemple, artistique, on pourrait la retrouver dans d'autres festivals. Des Uche Yara, des Billy Bird, des Jessica Pratt, enfin, tout ça, on peut le retrouver à d'autres festivals, sauf que là, il y a une concentration de ces talents-là. Et je pense qu'effectivement, du coup, le public pourrait très bien venir voir un concert comme ça et comprendre qu'il est aux créatives et du coup peut-être être touché par le reste de la programmation.
Hermela, elle est.
Et c'est pour ça que, pour rebondir sur ce que dit Nevena, on s'appuie aussi sur les différents partenaires et les différents lieux. On n'a pas lieu central, on fonctionne pas en huis clos. Donc on va dans les communes, dans les villes, dans les lieux culturels, dans les clubs, même le Palais Hénard pour faire nos rencontres littéraires ou tables rondes, à l'université avec Rim Batal, au musée d'art et d'histoire avec Hortense, et puis avec Marara au Grand Théâtre. Donc en fait, on va partout, là où on peut mettre un pied dans la porte, amener notre programmation et puis faire découvrir les créatives et les artistes qui composent le programme au public.
Hortense Bellotte, donc vous faites en tant qu'actrice, autrice et historienne de l'art des visites dans les musées. Ça s'est notamment passé au musée d'Orsay à Paris. À présent, ce sera toute cette semaine donc au musée d'art et d'histoire de Genève. Vous avez déjà eu comme ça des personnes qui étaient venues par erreur, qui ne savaient pas que c'était dans le cadre d'un travail féministe et engagé, ou des personnes qui seraient hors groupe et qui auraient été tendre une oreille lors de votre visite ?
Alors oui. Ça arrive quand même souvent. Alors, j'ai eu la chance, quand j'ai travaillé au musée d'Orsay, d'avoir une étude sur mes publics. Et cette étude sociologique sur les publics a donné que globalement, quand même, le cœur de mon public au musée d'Orsay, c'était des femmes de 37 ans, parisiennes, surdiplômées.
Voilà.
Mais donc, de fait, on sent bien qu'il y a un côté corporatiste, mais en tout cas...
Comment on fait pour embarquer tout le monde, alors?
Eh bien, en fait, ce qui est super, c'est qu'en fait, ces femmes de 37 ans, en moyenne, c'était une moyenne, mais ce qui est très drôle, c'est que c'est exactement mon âge, donc il y a vraiment un peu, je parle pour mes pères.
À vos sœurs.
Mais, pardon.
Mes sœurs. Votre miroir, éventuellement. Voilà.
Elles viennent parfois avec leur mec, parce qu'on n'a pas le droit de faire des statistiques pour savoir le nombre de lesbiennes. Donc parfois elles viennent avec leur mec, parfois elles viennent avec leurs parents, parfois elles viennent avec leurs enfants. Et en fait tout ça crée déjà une espèce d'infusion, et je sens bien que dans mon discours je fais beaucoup d'empowerment pour cette classe-là qui est la mienne, on va dire. Et ça aide aussi à renforcer chacun dans ce qu'il a à défendre dans son quotidien. Et y a toujours tout un tas de gens, et j'aime beaucoup, moi, pareil pour ma série Arte, j'étais vraiment le truc où on peut ramener et ses gosses et son tonton problématique.
Oui, effectivement, vous avez
en ça, alors même si c'est pas eux que je vise en premier, ils sont toujours là. Il y a toujours des tontons problématiques et des ados.
Vous allez nous parler un peu plus de ce travail d'escape game que vous proposez au Musée d'Art et d'Histoire toute cette semaine dans le cadre des créatives. Mais d'abord, de la musique avec une artiste programmée, la franco-suisse Yoa. Voici Matcha Queen.
C'est Vertigo.
Elle boit du matcha avec ses copines. Elle pense aux garçons qui lui font du mal. Mélange le yoga et les aspirines. Elle vit sa vie comme si c'était un drame. Elle sait plus pourquoi le soir elle déprime. Avant de plonger dans un rêve subliminal. Mais du sport elle trace sur son cherche d'un idéal sens, rien n'a de sens. Désir étrange d'aller au bout du rêve. Danse, tais-toi, danse, tais-toi. Avec ses copines, ou pis les garçons qui lui font du mal. Un peu à l'étroit dans sa paire de jeans. Passer des heures à éviter les drames. Elle met des tonnes de crème sur son visage. Oh mon Dieu, comme c'est criminel de prendre de l'âge. Pas d'amour en vue dans son paysage, mais seulement quelques traumatismes.
Queen signée Yoa. Yoa, artiste franco-suisse qui est programmée au festival Les Créatives. Elle sera en concert demain à l'usine à 20h30. Nous, on est toujours à Vernier, à la salle du Lignon, en compagnie de nos invités. On va reparler du travail d'Hortense Bellotte notamment et de Marara Kelly. Mais d'abord, un tour sur l'actu culturelle du monde.
L'actu culturelle dans Vertigo.
Le musée d'art des Grisons, le Kunsthaus Bregenz en Autriche, le Kunstmuseum Liechtenstein et le Kunstmuseum Saint-Gallen lancent une plateforme commune appelée le Cloud Castle. Il s'agit d'offrir un champ d'expérimentation pour des projets d'art contemporain communs aux trois pays, mais ce, en dehors des espaces habituels des musées, donc dans un lieu imaginaire. Il y aura notamment chaque année la possibilité pour un artiste invité de présenter une œuvre originale sous forme de performance, concert, atelier, réseau virtuel qui ne laisse aucune trace matérielle. L'artiste et réalisateur américain Woodsong sera le premier invité de Cloud Castle. Ce sera en janvier prochain à la Klanghaus Toggenburg, la maison du son, un nouveau bâtiment dédié à la musique situé au bord du lac Schwendisee dans le canton de Saint-Gall qui sera inauguré tout prochainement. Double question peut-être pour vous, Hermela Ailey et Nevena Pulic. Cette plateforme-là, ça me fait penser à la plateforme créative, même si ça n'a pas grand lien, mais tout de même, ça reste une plateforme. Plateforme des créatives BPM, c'est quoi et ça en est où, dites-nous.
Eh ben, ça vient de se terminer. On a eu un week-end BPM, du coup, qui est un week-end qui est dédié aux cultures et disciplines hip-hop. Mm-hmm. Donc, on y fait des ateliers autour du beatmaking, de la danse et de la parole. On a fait une soirée tremplin vendredi, où on a pu avoir 5 jeunes artistes qui sont venus présenter leur travail, et puis la gagnante remportait la première partie du concert de Ziné qu'on va faire à la Gravière samedi prochain. Du coup, je parle beaucoup, mais c'est Supreme Nova qui a gagné. Donc on a commencé par un tremplin, on a fait les ateliers, et ça se termine toujours par un battle qui allie la danse, enfin des binômes, une danseuse et une rappeuse, et là aussi, ça s'est déroulé dimanche et j'ai plus le nom des gagnantes. C'est Ace et je sais plus.
On va regarder sur le site, parce qu'évidemment, tout est sur le site.
Mais du coup, c'est voilà, c'est une belle plateforme qui dure depuis cette édition.
Magnifique. Les autorités en Ouzbékistan ont annoncé hier introduire un examen moral au contenu des médias, chansons, dessins animés, séries et films avant leur publication. Et chaque représentation d'artiste sur scène devra être préalablement validée par les autorités. Il est très important d'empêcher la diffusion de contenus médiatiques nuisant à l'éducation des jeunes et à notre mentalité nationale, a rapporté l'agence de presse étatique. Il s'agit, je cite, d'analyser la conformité des contenus visés et leur niveau de compatibilité avec les valeurs de l'Ouzbékistan, cette ex-république soviétique laïque d'environ 35 millions d'habitants à majorité musulmane. Cette annonce intervient alors que des artistes ouzbeks ont déjà été poursuivis par l'État, notamment en raison de tenues inappropriées portées par des femmes, dont Kaniza, que vous entendez en ce moment, une star de la chanson en Ouzbékistan, qui avait été suspendue il y a quelques mois suite à la diffusion d'une vidéo où sa tenue avait été jugée offensante. L'Ouzbékistan, bon bah c'est un des pays concernés, mais pas seulement, par cette question de la liberté d'expression artistique menacée ou limitée dans bien d'autres pays. Vous, Rim Batal, vous êtes d'origine marocaine. Comment est-ce que vous portez vos textes aussi, hein, X et XC notamment, au Maroc, dans votre pays? Est-ce que vous êtes totalement libre de les interpréter?
Alors j'ai fait une petite tournée avec mon spectacle Pomme Girl, qui parle justement d'une rencontre amoureuse lors d'une soirée, et qui parle justement de où le personnage principal, la narratrice, est un sujet désirant, et ça parle beaucoup de sexualité avec des termes très clairs. J'ai aussi fait à deux reprises pendant un festival et dans une galerie d'art des lectures de textes extraits de mon dernier livre, donc XXX, dont on parlait tout à l'heure, et qui parle de sexualité aussi, de désir et de pornographie en ligne. Et ça s'est très bien passé. À chaque fois que je l'ai fait, je plaisantais avec mes amis en disant voilà, écoute, si en descendant de la scène il y a la police qui est là, tu diras que t'es mon avocat, Brahim, à des copains. Mais en fait, ça s'est toujours bien passé, j'ai jamais eu de problème. Après, comme je suis francophone, et donc il y a quand même le public qui consomme de la littérature, encore plus de la poésie en français, est très réduit. Et généralement, c'est une classe sociale plutôt aisée au Maroc, qui voyage beaucoup, etc., et qui est plutôt ouverte par rapport à ce genre de littérature. Mais voilà, donc ça reste une circulation quand même qui est dans des cercles particuliers d'initiés. Bon, voilà, mais jusque-là, je touche du bois, mais j'ai jamais eu de problème, pourvu que ça dure. Dijo que llegaban 20, apagó el cel por no dejarse pillar. La baby es mala pero inteligente, yeah. Y aunque esa bebita tiene dueño, ella sale. Plus 57, c'est le nouveau titre de l'artiste colombienne Karol G, en collaboration avec toute une brochette d'autres artistes colombiens. Karol G, c'est l'une des artistes de reggaeton et de pop urbaine les plus influentes au monde. Couronnée d'un Grammy Award, 5 Latin Grammy Awards, 4 Billboard Music Awards. Et ce titre, il fait scandale dans son pays, puisqu'il fait référence à une femme qui est une mamachita, belle en fait, depuis qu'elle a 14 ans. Donc l'organisme colombien de la protection de l'enfance s'est offusqué que donc
plus 57 face à la promotion de contenus qui sexualisent dès le plus jeune âge. Des magazines tels que Rolling Stone en espagnol ont pris le relais, qualifiant de catastrophe ce morceau qui prône la sexualisation des mineurs. La trentenaire, Carole G, a assuré que les paroles ont été prises hors contexte, mais elle s'est tout de même excusée publiquement hier pour ses paroles offensantes. Cette question justement de la sexualisation dans la musique, là on est dans le monde du reggaeton, mais aussi dans la pop, le rap, le DJ, c'est quand même une question qui revient souvent avec ces images de filles très sexy. D'un côté, c'est un signe voilà, de liberté, de droit à disposer complètement de son corps et à se montrer voilà, dans tous ses attributs, mais ça reste l'affichage d'une certaine sexualisation. Mariah Carey, comment vous vous dépêtrez de cette contradiction-là en tant qu'artiste DJ? Vous êtes, on peut le dire, assez sexy sur vos vidéos aussi en ligne, où vous portez
merci,
votre musique.
Merci. Alors, moi, je pense que ce que je fais va contre toute moralisation du corps, donc de ne pas penser... On reçoit tellement d'images de femmes sexualisées, mais qui sont mises en scène par des hommes, par une industrie, par l'industrie du porno. On construit notre imaginaire de corps de femmes à travers cette industrie, même si on ne la consomme pas directement. Elle est présente dans le cinéma, le théâtre, la littérature. Elle est présente dans nos imaginaires. Donc je pense que c'est quand même assez libérateur de pouvoir me mettre moi-même dans une position de femme qui désire et qui est désirante et qui est sexualisée parce que je suis une femme adulte et ça fait partie de ma vie tant comme d'autres aspects. Et donc ça pour moi c'est quelque chose de bien pas problématique,
Personne ne vous oblige à aller dans cette voie-là, c'est votre choix.
Donc c'est pas pour affronter, c'est juste qui je suis, c'est mon corps et c'est la manière que je le agencie.
Merci Mariah Carey.
C'était l'actu culturel de Vertigo, à retrouver sur Play RTS.
Vertigo en direct de Vernier à la salle du Lignon, quelques heures avant l'ouverture de cette 20e édition du Festival Les Créatives, en compagnie des deux co-directrices Hermela Haile, Nevena Pulic et de trois des artistes programmés, dont vous, Hortense Bellotte. Mais qu'est-ce que vous faites? Petite accroche.
Actuellement en résidence au Musée d'Orsay à Paris. Je vous invite à m'y rejoindre tous les derniers jeudis de chaque mois pour une visite guidée un peu particulière sous la forme d'escape game. Il s'agira ensemble d'essayer d'échapper aux héritages douteux du 19e siècle en 60 minutes chrono. Et si tout ça fait déjà trop d'informations pour vous, c'est que vous êtes mal barré. Bonne chance.
Donc ça, c'était l'accroche de votre escape game, Hortense Bellotte, proposée au Musée d'Orsay. Vous proposez désormais la même chose au Musée d'Art et d'Histoire de Genève. Qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce qui se passe?
Alors, c'est pas la même chose, puisque c'est des créations complètement
inattendues
et qui sont vraiment faites pour l'endroit. Qu'est-ce qui se passe? Je peux pas tout vous dire, parce que ça repose quand même énormément
sur la surprise.
De la surprise et surtout sur le principe même de l'escape game qui est il va falloir sortir d'ici mais il va falloir surtout savoir deviner comment. Et donc le chemin n'est pas donné d'avance, ce qui est une belle allégorie de la créativité et qui est aussi l'idée, ce que j'aimais beaucoup dans l'idée du concept d'escape game, c'était de s'échapper culturellement d'un endroit. C'est-à-dire que ces musées-là sont quand même... On évoquait la musique classique avec les créatives, mais parmi les endroits très poussiéreux du monde culturel, et très poussiéreux et conservateurs, il y a la musique classique qui est peut-être au-dessus. Mais juste en dessous de la musique classique, il y a les musées. Et les musées et l'art classique occidental qui est, moi, mon cœur de cible, c'est-à-dire la peinture de la Renaissance jusqu'au 19e siècle, et qui est un fondement culturel malgré nous, un peu comme la pornographie. C'est même pas parce qu'on consomme les musées que ces œuvres-là n'ont pas d'action sur nous. Et cette action-là, c'est une domination de classe. Et surtout, très souvent, le musée a été utilisé comme argumentaire pour contrôler les corps et dans une option très conservatrice. Ce que j'essaie de faire, c'est comment échapper à tout cet héritage conservateur sans pour autant renoncer au musée. Ce que je propose, c'est quand même une déambulation. Et alors là, pour l'aspect guérison, là, typiquement au musée d'art et d'histoire de Genève, ce sera une sorte de parcours de santé. Je voudrais pas tout...
Sans faire des pompes.
Tout des... Voilà, c'est ça. Un petit parcours de santé, voilà.
Mais on se réconcilie avec ses œuvres quand même. Hein, on ne se met pas à les détester. Vous nous apprenez simplement à les regarder d'un autre œil, c'est ça?
C'est surtout se les approprier, effectivement, et s'autoriser à se les approprier. Et déjà, on les vide de leur potentielle oppression quand on s'autorise à dialoguer avec elles et à ce que le présent soit pas en concurrence, mais en chemin avec ces œuvres-là. Et généralement, ça réconcilie beaucoup de choses, en fait. De la même manière que cette programmation-là, qui est un partenariat entre les créatives et le musée d'art et d'histoire, est une forme aussi de réconciliation. Il n'y a pas plus misogyne en apparence que l'art classique occidental, avec très peu de femmes artistes et beaucoup de femmes nues. Et en même temps, dans les musées, il y a beaucoup de femmes qui travaillent. Tout le service médiation et Louise Graff, par exemple, qui a aussi créé ce partenariat, tous ces gens-là sont des femmes. Donc il y a beaucoup de femmes qui travaillent dans les musées. Et tout ça, c'est un processus aussi de réappropriation et de focales différentes.
Donc tout ça se fait aussi, évidemment, avec beaucoup d'humour. Bon, c'est déjà complet, mais j'imagine qu'il y a d'autres dates à envisager. Là, je me tourne vers les programmatrices. Hein, il va falloir dégager quelques dates avec le musée d'art et d'histoire, parce que c'est quand même très chargé. Il y a de la musique, hein, parce que le jour, on peut visiter le musée d'art et d'histoire avec vous, Hortense Bellotte, et puis la nuit, on peut danser avec votre musique. Donc, Marara Kelly, on écoute un peu de cette musique.
Jitu Marara Kelly. If I told you once, I told you twice. You can see it in my
eyes. É DJ Melody.
Essa é a DJ Melody produzindo só sonzão.
DJ Ronaldo Marizinha.
Voilà un peu de votre musique, Marara Kelly, DJ brésilienne installée en Suisse, vous nous disiez depuis 4 ans. Alors vous n'êtes pas juste DJ qui passe des tubes connus, vous avez un style musical très métissé, à votre sauce. Il y a de la pop, de la baile funk et de la techno brega. Il va falloir nous définir un petit peu ces termes-là pour les non-initiés, s'il vous plaît, Marara Kelly.
Alors, la pop, on connaît tous. La baile funk, c'est une musique qui vient surtout de la périphérie du sud-est du Brésil, donc de Rio, de São Paulo, et après c'est disséminé un peu partout. Aujourd'hui, on voit en Europe, moi je vois aucun DJ set sans la baile funk. Et le techno brega, du coup, c'est un genre de musique qui vient de Belém, qui c'est ma ville de naissance, qui c'est une métropole au milieu de l'Amazonie. Et ça, c'est ce qu'on vient d'écouter. C'est un extrait d'un DJ set qui travaille donc le techno brega et ses variantes, parce que c'est les deux styles de musique sont d'une production vraiment sans arrêt, tout le temps assorti de nouveaux variations et de nouveaux genres et de nouveaux sous-genres à son intérieur. Et ça, c'est des éléments très présents dans ma pratique de DJ, même si le concert que je fais le 23, c'est pas en DJ set. Et ces musiques sont retravaillées, donc
vous allez vernir votre premier album court. à cette occasion-là. Ouais. En quoi est-ce que votre musique, Marara Kelly, trouve sa place dans un festival féministe et engagé?
Deux adjectifs que je pourrais attribuer à toute ma pratique artistique aussi, c'est d'être féministe. C'est quelque chose qui est un peu inhérent quand on est femme et artiste. Bah, je pense que pas toutes le sont, et ça c'est un problème aussi de notre actualité, mais c'est quelque chose de lié à la revendication de nos droits, de notre présence, de notre importance. Et l'autre mot, c'est
engagé
dans le sens que la musique que j'ai faite, déjà le fait de la transposer de contexte, de la mêler à un autre contexte, ça parle du coup de ces déplacements, de la question de la migration, pas seulement la mienne, mais de plusieurs communautés, de comment on se retrouve à travers la musique. Et l'élément pop, c'est aussi présent pour faire cette entrée pour accrocher les gens à travers quelque chose qu'on connaît, parce que la musique c'est quand même un instrument de connexion.
Donc on pourra vous entendre, Marara Kelly, lors de cette late night le 23 novembre, où il y aura aussi DJ Paulette, qui est une fameuse DJ britannique très très engagée aussi. Ce sera au Grand Théâtre de Genève à 20h30. Un peu de théâtre à présent.
Nous avons le droit d'exister et nous allons exister de plus en plus. C'est la promesse que nous fait cette journée, mais aujourd'hui c'est le résultat d'autres promesses tenues. Alors que le temps de la fête de cette nuit qui n'en finit pas,
attendez,
c'est tant mieux.
Ou la colère de certains, est-ce que finalement cette polémique a été montée en brèche? Est-ce que c'était beaucoup de bruit pour rien?
Oui, c'est du bruit, mais pas pour rien, car ce rien c'est nous et nous ne sommes pas rien.
Voilà, ce qu'on vient d'entendre, c'est un extrait du spectacle « La nuit n'en finira donc pas », créé récemment en Valais. Il y était notamment question de féminisme, de harcèlement, de lutte pour l'égalité de genre. Plus d'égalité, de diversité, de respect, ça s'exprime sur scène. Donc, hein, on en a parlé avec vous toutes ici, dans les performances proposées. Mais cela doit se faire aussi à l'intérieur des structures qui prônent ces spectacles, sinon ça n'a pas de sens. Hermela Haile et Nevena Pulic, en 2021, le Festival Les Créatives a publié son carnet rose pour l'égalité de genre dans la culture. Depuis, le monde roman des arts de la scène a connu pas mal de secousses, avec des cas de harcèlement, de mobbing dénoncés, parfois poursuivis pénalement. Ce carnet rose préconisait la création d'une charte des bonnes pratiques en la matière. Thierry Sartoretti, vous avez voulu savoir où en étaient les arts de la scène en matière de lutte contre le mobbing et le harcèlement.
Oui, alors charte officielle désormais, il y a à Genève, ville et canton, ainsi que dans la commune de Mérin. À Lausanne aussi, un dispositif d'accompagnement a été mis en place, avec l'obligation pour les institutions et compagnies subventionnées d'avoir une personne de confiance en entreprise, ou alors de pouvoir faire appel à une ressource extérieure si les moyens financiers manquent.
Et pour obtenir une subvention en vue d'une création artistique, quelles sont désormais les conditions en matière de lutte contre le harcèlement?
On écoute Myriam Jacquier-Durand, elle est chef du service culturel de la ville de Genève.
Une charte qui sera signée par des membres du comité et de la direction. Et cette charte implique un certain nombre de mesures, c'est-à-dire la première est de pouvoir suivre une formation en ligne, comme à disposition en ligne, qui est disponible sur le site internet de la ville de Genève, de pouvoir bénéficier d'une personne de confiance au sein de l'association, d'avoir un comité donc qui a le rôle d'employeur et de s'engager sur un certain nombre de mesures, d'avoir aussi un plan à mettre en place au sein de l'association, et puis de remonter toute information ou tout doute qui serait lié à une situation susceptible de porter atteinte à la personnalité physique ou morale d'un employé ou d'une employée. Dans le cadre professionnel, je précise.
Alors ça, c'est le monde idéal, Anne-Laure, mais on se rend bien compte qu'entre la Comédie de Genève, par exemple, avec des dizaines d'employés, et une petite compagnie de danse créée le temps d'un seul spectacle, y a une sacrée différence. Souvent, le comité d'association, donc l'employeur, c'est les amis de l'artiste. Myriam Jacquier-Durand.
Quand on est dans des structures qui soit sont émergentes, soit qui disposent de très peu de moyens, il y a vraiment un point de vigilance à bien dissocier les rôles, les responsabilités, soit de la direction artistique, administrative ou de l'employeur, du comité. Dans ce cas de figure, en règle générale, il est aussi difficile d'avoir une personne de confiance. Donc le service culturel, la ville de Genève soutient et collabore avec, avec Safe Space Culture qui permet de jouer ce rôle en fait, de conseil et qui va récolter les témoignages des employés et des employés. Et donc c'est aussi un budget, c'est un engagement aussi de, du service culturel de la ville de Genève en faveur de cette politique contre le harcèlement, les atteintes à la personnalité et de pouvoir offrir cette prestation aux structures qui n'ont pas les moyens d'avoir une personne de conseil en entreprise.
Safe Space Culture, c'est par exemple un numéro de téléphone joignable anonymement, le 026 321 15 30, valable pour toute la Suisse romande, Thierry.
Oui, et à Genève, la porte de ce fameux département de la culture est également ouverte, Myriam Jacquier-Durand.
On a la chance aujourd'hui d'avoir pu dédier un temps de travail à une personne ressource qui est chargée de projets transversaux et qui travaille plus précisément sur ces questions-là. Son rôle, c'est de sensibiliser, d'accompagner, d'orienter vers les bonnes structures les potentielles personnes qui auraient été dans une situation afin qu'elles puissent être accompagnées et puis mettre en place les actions qui permettront de régulariser cette situation et on l'espère toujours.
Conseiller, sensibiliser, c'est bien. Est-ce que les autorités surveillent désormais leurs subventionnés pour s'assurer du respect de la charte ?
Là, le bas blesse. On retrouve la chef du service culturel de la ville de Genève.
Absolument pas. Notre rôle, par contre, au-delà du conseil et de l'orientation et de l'écoute, parce que c'est vrai qu'on reçoit aussi des témoignages, c'est d'être garant en fait que la charte qui est signée par les institutions que l'on soutient, que l'on subventionne, soit bien mise en place, soit respectée. Et si malheureusement on se retrouve dans une situation d'un cas et que nous actionnons notre plan d'action, c'est-à-dire que nous allons interpeller, solliciter l'employeur et que nous n'arrivons pas à obtenir les garanties suffisantes, nous pouvons actionner un certain nombre de mesures.
Alors là, on peut saluer l'existence de l'association Harcènement, ARTS-sainement.ch, sensible aux questions de signalement et de suivi en matière de harcèlement ou de mobbing. Elle propose par ailleurs un soutien très concret aux acteurs et actrices culturelles.
Et qu'est-ce qui se passe ensuite, alors, quand un artiste ayant failli à ses engagements entend poursuivre sa carrière?
Alors là, on entre dans une zone très floue. Myriam Jacquier-Durand.
Comment soutenir d'autres projets d'un artiste qui aurait été finalement potentiellement accusé dans une situation de la sorte, eh bien c'est effectivement toute la suite des discussions qu'on va devoir avoir avec nos partenaires et les collectivités publiques.
Dans ce domaine, il n'y a pas que la réaction des subventionneurs qui a du poids ou qui compte, il y a aussi celle du public et des milieux professionnels. Et la réputation, c'est une variable très sensible et même mouvante. Un cas actuel, le metteur en scène Dorian Rossel, en 2020, baiser forcé à l'une de ses comédiennes, ça donne lieu à une enquête, une médiation. Depuis, cet acte en fait revient régulièrement sur le devant de la scène, sous la forme de dénonciation ou de campagne publique. L'automne dernier, le théâtre du Jura renonce à lui confier sa direction. Cette semaine, c'est un autre théâtre qui suspend sa future mise en scène, prévue en mai prochain. La raison, je cite, « au vu du contexte associé aux faits soulevés dans la presse et des campagnes de dénigrement sur les réseaux sociaux, le comité de direction de l'association du théâtre Le Crève-Cœur ne peut pas assumer les risques importants associés à ce spectacle. » Fin de citation. Autrefois, l'omerta prévalait dans les milieux culturels. La situation s'est améliorée. Elle est loin d'être idéale. Et puis aujourd'hui, effet de balancier, certaines institutions sont plutôt guidées par la peur du scandale ou du dégât de réputation plutôt que par une véritable opinion sur les questions de harcèlement. Il reste encore du travail à faire.
Merci Thierry Sartoretti. Un mot peut-être, Hermela Haile, sur ce terrain-là, le carnet rose notamment. Est-ce que vous sentez qu'il a changé des choses ?
Oula, oui, je pense qu'il a en tout cas...
Il vous est utile, du moins.
Oui, oui, il est utile, il a été utile. Et d'ailleurs, tous les témoignages qui s'y trouvent émanent d'artistes ou de personnes dans les institutions culturelles. Donc, c'est par et pour les personnes concernées. Nous, maintenant, notre but avec Nevena, c'est de poursuivre cette diffusion. Donc, on le distribue gratuitement auprès d'institutions culturelles, principalement, y compris en Suisse alémanique, même surtout en Suisse alémanique maintenant, parce qu'on a beaucoup d'exemplaires en allemand. Bref. Et on continue à le développer, en workshop, atelier, sur demande pour les institutions culturelles qui souhaitent voilà débuter cette discussion à l'intérieur au sein de leur structure qui est nécessaire. Et ça peut être une charte, ça peut être on traite aussi d'égalité salariale, de harcèlement et tout ça. Donc on est là pour ça.
Effectivement, qu'on peut retrouver sur le site des créatives ainsi que toute la programmation.
Les émissions de la journée, en nouvelle diffusion pour accompagner vos nuits. La première, il est 4 heures.